Chapitre 8. Monsieur Jaume, en vrai parisien, ne fréquentait que le quartier de ses affaires, Montmartre. Depuis 10 ans, il n'avait pas revu le Louvre, la Madeleine, une seule fois. Aussi, pour se rendre boulevard Poissonnière, éprouva-t-il un amour-propre de s'en démancher. En son pantalon de drap gris nettoyé, sa jaquette, où ne manquait plus un bouton, il partit lestement à travers la foule, qui lui parut plus nombreuse que jadis et plus vive. Certes, Pierre avait décrit en détail le magasin Baudouin Lempéric, son luxe de couleurs, sa classe d'employés grattant de la plume sur une large table. Mais tant de richesses éblouit M. Jaume. Un moment, il fléchit dans ses résolutions. Pourtant, aurait-il dépensé en vain des frais de temps et de voyage? Il entra, balourd, tapotant le parquet de sa canne. À peine avait-il refermé la porte qu'un monsieur, soulevant la tenture du cabinet directorial, s'empressa à son service. Ébahi de voir, au lieu du petit Sébastien, un homme de moyenne taille, habillé comme un milord, paré d'une splendide barbe blanche, M. Jaume bredouilla.
« Je me trompe, pardon. »«
Qui demandez-vous ? » ?»«
Monsieur Lempéric. » »«
C'est moi, monsieur. »
« Pas possible, vous auriez grandi bien vite. »«
Je ne suis pas monsieur Lempéric, mais c'est la même chose, lui et moi. Si vous avez des ordres à me confier... »
« Pas pour aujourd'hui. Monsieur Lempéric est une de mes bonnes connaissances. J'ai à lui communiquer une nouvelle très importante. »«
Relativement à notre commerce ?»«
Oui et non. » »«
Il n'est pas là pour l'instant. Si vous voulez passer dans notre cabinet, nous causerons à l'aise. »
« Ma foi, ce n'est pas de refus. »
Une curiosité poussait M. Jaume à pénétrer, en sa réalité vivante, le cadre où Mathilde avait engagé sa destinée. Sur la porte du cabinet, il s'arrêta court devant l'opulence des tapis, des meubles de soie, dans la blanche clarté des lampes électriques. Madame Baudouin, sur la table à tapis vert, était si occupée à fabriquer des cocottes avec des papiers de couleurs diverses qu'elle ne soupçonna point l'arrivée d'un inconnu. Mais, ayant levé le front, elle se troubla et, avec une inquiétude d'écolière prise en défaut, elle déchira ses cocottes ensemble. M. Baudouin fit les présentations.
« Madame Léon Baudouin, mon épouse. Monsieur...
Ah, monsieur, comment, s'il vous plaît ?»«
Monsieur Jaume de Saint-Mandé, ami de Sébastien Lempéric. »
M. Jaume s'installa bravement dans le fauteuil capitonné, remonta sur un genou, puis sur l'autre, un peu de son pantalon. Il passa sa langue gourmande sur ses lèvres et dit « M. Lempéric était, il n'y a pas longtemps, un de mes locataires à Montmartre. J'ai conservé de lui un souvenir excellent, ainsi que d'une de ses voisines, qui était jolie comme un ange. Elle s'appelait Mathilde Baudry. Elle est aujourd'hui sa femme. »
« Merci, monsieur. » « Je m'intéresse à ces enfants. Ils sont si drôles.
Alors c'est eux qui ont établi ce magasin ?»«
Oui, monsieur, c'est nous. J'en ai eu l'idée le premier. »«
Ah, il doit vous coûter cher ?»«
Au début, oui, mais il faut de l'audace, toujours de l'audace, comme disait Napoléon à Austerlitz. »«
Vos frais d'établissement et de publicité n'absorberont-ils pas trop vite votre fortune ?»«
Non, monsieur. »
Ce serait dommage de travailler pour vos successeurs. Tenez, je ne sais où placer mon argent. Les immeubles me donnent un tintouin du diable. Les sociétés de crédit croulent fatalement un jour ou l'autre sur leurs gogos. Reste le commerce. Si vous êtes sérieux...
Oh, par exemple.
Économe, je veux dire, persévérant, je pourrais placer ici quelques capitaux. Léon s'agita dans un bonheur qu'il ne parvenait guère à dissimuler. Le magasin, en effet, n'attirait point de clientèle. S'il continuait de cette allure, il dévorerait, au bout de 3 ou 4 ans, les ressources de ses patrons. Quel miracle qu'un Crésus leur tombait du ciel avec une offrande de capitaux dans sa poche. Léon, ne fût-ce que pour inspirer confiance, répondit sur un ton de noblesse. « Je crois au succès, monsieur. De plus, j'ai les reins solides. Cependant, on pourrait développer le commerce. » J'en délibérerai avec Sébastien.
Parbleu, où demeure-t-il ce brigand-là ?
Rue Chauchat, 20 bis.
Bien, je vais le surprendre. Soufflant du poids de sa bedaine, M. Jaume salua la dame maigre qui se souleva une seconde, ensuite M. Léon qui le reconduisit en vieux camarade. Jusqu'à la porte du magasin, M. Jaume, sur le boulevard, qu'embaumaient les kiosques des fleuristes et les feuillages des marronniers, se crut un de ces seigneurs de l'argent et de la noce, badenaudant çà et là, devant les boutiques, parmi les femmes. Rue Chauchat, dans le clair escalier, il se mit à chantonner de plaisir. Au premier, une bonne lui ouvrit, grosse, courtaude, que Sébastien, s'étrapu lui-même, avait sans doute embauchée à cause de sa taille. Elle l'introduisit, avec mille excuses, dans la salle à manger. On décorait le salon et le boudoir. M. Jaume ne voulait d'abord s'entretenir qu'avec Mme Lampéric, et, de sa voix grasseyante, il le recommanda expressément à la bonne effarouchée. Malgré lui, la richesse de l'appartement, des tableaux en leur cadre d'or, des potiches, des bibelots, des plantes vertes, toute cette élégance qui faisait la guerre au luxe du magasin, l'impressionna. Mme Lampéric apparut. À cause de la pénombre, elle le prit pour un fournisseur, dans sa vulgarité, la canne à la bouche. Elle s'approcha discrète. Tandis qu'il saluait, elle le reconnut. « Vous, que faites-vous ici ?»« Chut, vous êtes mariée ?»« Mon mari, Sébastien Lampéric, est au salon. Il surveille les tapissiers. Écoutez. » Ils prêtèrent l'oreille. Dans la pièce voisine, un marteau précautionneux battait une rosace, un clou doré. On entendait la voix éraillée de Sébastien, indiquant la place d'un tableau, suppliant qu'on tirât le tapis davantage. M. Jaume, convaincu enfin de la gravité de cette installation, admira Mathilde, qui, toujours fraîche, en son peignoir de lignon bleu garni de Valenciennes, s'appuyait debout à la table de cerisier. Il lui dit tout bas « Je viens du magasin, vous cherchez. »«
Vous êtes fou ?»«
Oui, de vous. » »«
Ah ça, quand vous ai-je donné le droit de m'adresser de pareilles impertinences ?»«
Jamais encore, plus tard. Vous avez tort de me bouder. »«
Mais sapristi !»
Il la grippait par la cordelière afin qu'elle s'assît auprès de lui. Rouge de peur, puis odorante en sa chair tourmentée, comme une rose sous la pluie, elle se récria.
« J'appelle mon mari. »«
Oui, qu'il vienne, j'ai à lui parler. »«
Il semblerait d'ailleurs que j'ai à me cacher de lui. »
Leste, elle s'esquiva.
« Sébastien, appelait-elle, arrive ici, c'est Monsieur Jaume. »
Sébastien sortit du salon en maugréant.
« Monsieur Jaume, qui donc est-ce ? »
« Notre propriétaire de la rue Lepic. »«
Ah, qu'est-ce qu'il veut ?»
Elle l'amenait comme un enfant, si bizarre sous son gibus, en bras de chemise. M. Jaume s'avança aussitôt par une prévenance flatteuse et déclara
« Ce que je veux, asseyons-nous là, je vous expliquerai. Ça va bien ?»«
Pas mal, et vous ?»«
Je viens de votre magasin, boulevard Poissonnière. J'y ai rencontré M. et Mme Baudois. »
Il paraît que la clientèle regimbe.
Au contraire.
Non, je suis un vieux renard. Je connais les affaires, la difficulté des temps. Rien ne va.
Voudriez-vous acheter ?
Oh non, seulement je pourrais engager des capitaux.
Tant mieux, je vais m'apprêter.
Pas si vite, je viendrai vous revoir. Nous causerons à tête reposée.
C'est ça, d'ailleurs je vous invite à pendre ici la crémaillère avec nous.
À bientôt, je n'ai pas une minute à moi. »
Sébastien s'en retourna gaiement au salon. M. Jaume, sans différer, ressaisit Mathilde et d'une poigne si volontaire qu'elle se laissa choir auprès de lui. Ravie d'une telle témérité, devait-elle rire ou se fâcher ? Il finissait, à force de cynisme, par l'intéresser à ses convoitises. Elle n'avait plus à protéger d'une injure la virginité, autrefois précieuse, de son corps. Et parce qu'il était dans sa nature de plaire aux hommes et de les tromper, parce qu'elle aimait la joie, elle se mit à rire.
« Êtes-vous donc mon maître ?»«
Pas encore. Ah, vous croyez à votre âge que le soleil d'été luit toujours sur les êtres et les choses ?»«
Vous avez tort. Je connais votre époux. Il est du midi. Il a le génie du mensonge et de l'extravagance. Je vous annonce que dans 2 ans, il sera ruiné. »«
Eh bien, merci !»
Pas si fort, restez.
Pardon, je suis une honnête femme.
Surtout avec Pierre.
Pierre, qui est-ce ?
Pas si fort, j'ai découvert tous vos secrets. Si je ne retenais pas votre Pierre, il vous arracherait vite à votre époux.
Assez, pitié pour moi, je vous en prie.
Oh, je ne suis pas un lâche.
Elle le regarda, les mains jointes, avec une imploration qui entr'ouvrait béatement ses lèvres. Lui, d'humeur toujours égale, s'inclina sur les épaules frémissantes, sur sa gorge qui exhalait l'odeur du linge fin, de la peau plus douce que les raisins d'une treille au soleil. Il ricana, lourd de sensualité.
« Comment avez-vous pris ce bout d'homme ?
Voulez-vous vous taire ?
Vous l'aimez ?
Tant qu'il me sera dévoué, je ne vivrai que pour lui.
Il n'y aura pas toujours du sucre sur votre table. Le vinaigre arrivera. Si vous aviez voulu...
Si vous insistez, je vous chasse. Écartez-vous.
Je ne vous ai pas chassé lorsqu'un matin, chez moi...
Oui, je suis laid, mal vêtu, mais j'ai de l'argent.
Et votre mari, est-ce qu'il est beau ?
Mathilde se redressa d'un bond. Irrité lui-même, il l'obligea à se soumettre entre ses mains, qui déjà la caressaient, lorsque Sébastien rentra. On ne l'entendait pas à cause de ses pantoufles. Déconcerté, soudain, il s'arrêta, pris d'angoisse et de fureur. Il grinça des dents, frappa des pieds. Mathilde, à ce bruit, tressaillit, et reprenant la conscience de son devoir, elle voulut trop vite se détacher de M. Jaume. Celui-ci, loin de se troubler, sourit des yeux à Sébastien. Il dit, bonasse,
« Je confiais à madame. »«
Quoi donc ? Je suis navré, monsieur. » »«
En voilà des histoires. Je confiais à madame que si vous avez besoin de moi... »«
On le sait.
Aujourd'hui même... »«
Ah ah ! Aujourd'hui ?
Je suis à votre service, quand vous voudrez, chez moi. »«
C'est parfait. »
Mathilde s'était levée, non sans peine. Elle s'accouda sur une épaule de Sébastien, qui eut un frisson de plaisir malgré lui.
Monsieur Jaume se leva avec nonchalance. Puisqu'il ne pouvait plus tourmenter la femme par ses tentations, il salua et, selon sa brusquerie d'habitude, disparut.
Mathilde, pour montrer de l'assurance, fit l'espiègle, sauta sur son mari. Celui-ci, de dégoût, se rebiffa.
« Laisse-moi ! Que te racontait cet homme ?
Il te l'a dit.
Dois-je le croire ?
Parbleu ! D'ailleurs, s'il a du goût pour moi, puis-je en empêcher ? Crois-tu que je vais me déshonorer avec un vieux de cette espèce ?
Cependant, j'ai vu...
Sans comprendre. Je le laissais faire, parce que plus tard, il nous aidera. Et c'est par des injures que tu me récompenses.
Alors, tu l'écoutais par dévouement ?
Mathilde !
Il lui tendait les bras avec ferveur. Elle se pencha un peu afin qu'il pût l'embrasser à l'aise.
« Ne te trouve jamais seule chez lui, » murmura-t-il.
« N'aie pas peur. »